Bonjour, mes frères et sœurs. Le message de Monsieur Saracom m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur. C'est d'ailleurs le passage biblique que j'avais utilisé lors de mon tout premier petit sermon. Il s'inspirait d'un événement qui m'était arrivé et dont la plupart d'entre vous n'ont probablement pas entendu parler, car il s'agissait d'un petit sermon qui ne figure pas dans la bibliothèque. Mais je ne savais pas, avant de lire ce verset dans Matthieu, à quel point les cochons pouvaient être dangereux. J'ai effectué des recherches et j'ai découvert qu'ils étaient en effet très dangereux. Cela a rendu d'autant plus pertinente une histoire qui s'est produite au début de ma vie. Combien d'entre vous ont déjà entendu l'expression « prendre des risques » Je suis sûr que oui. Eh bien, j'ai pris des risques au sens propre du terme. J'étais dans un parc et j'entendais les cochons derrière une clôture, mais je ne les voyais pas. C'était une sorte de parc sur le thème de la ferme, qui rappelait la vie telle qu'elle était au XIXe siècle à Richmond. Et j'ai eu cette brillante idée de grimper à un arbre, la clôture était relativement haute, et de me hisser sur une branche. Et alors que je m'avançais de plus en plus loin sur cette branche, mon poids a commencé à la faire plier de plus en plus, et elle a cédé. Je suis tombé, je me suis cogné la tête et je me suis retrouvé inconscient dans l'enclos des cochons. Après avoir appris que les cochons mangent régulièrement les fermiers qui glissent et tombent inconscients, j'ai réalisé que j'avais peut-être été l'objet d'un miracle très tôt dans ma vie. Mais c'est incroyable à quel point les cochons sont dangereux. Et je devais mentionner cela à cause du message que nous venons d'entendre, que j'ai beaucoup apprécié. Je voudrais commencer maintenant par une question. Ce message ne fait pas suite au dernier. Une question. Et nous n'allons pas y répondre immédiatement. Vous pouvez y réfléchir. Peut-être que certains d'entre vous devineront la réponse assez tôt. Je ne sais pas si j'aurais été capable de trouver la réponse. En fait, je sais que je n'aurais pas pu. Et nous y répondrons plus en profondeur dans le message, et nous y reviendrons et développerons cette réponse après y avoir répondu. La question est la suivante, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait par-dessus tout que les frères comprennent? On pourrait dire qu'il y a plusieurs façons d'y répondre. Mais il y a un élément explicite sur lequel nous allons à nouveau nous appuyer et développer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait par-dessus tout que vous et moi comprenions à propos de ce mode de vie? Repensez, par exemple, à l'apôtre Jean. Il a dit, « Je souhaite par-dessus tout que vous prospériez et que vous soyez en bonne santé. » C'est plus simple. Prospérer spirituellement, prospérer physiquement. Et l'apôtre Paul? Sur quoi voulait-il que les frères se concentrent le plus? De quoi parlait-il constamment à Dieu? Pourquoi priait-il constamment Dieu? La Bible est assez explicite. La réponse à cette question est d'une importance capitale. Nous allons faire un petit détour ici, mais ce n'est pas vraiment un détour. Cela concerne en fin de compte ce dont nous allons parler. Nous vivons dans ce qu'on appelle une société du jetable. Nous sommes à l'ère des récipients en plastique et des véhicules que les gens ne conduisent que quelques années avant de vouloir le dernier modèle, le plus performant. L'époque où les objets tombent en panne tôt dans leur cycle de vie, l'obsolescence programmée, vous avez sans doute déjà entendu ce terme. Si un marketeur ne peut pas vous vendre sans cesse la même chose, les entreprises font faillite. Dans cette société de consommation, dans cette société connectée à Internet où tout le monde peut être exposé à la publicité à tout moment, il est dans l'intérêt des entreprises de vous donner constamment l'impression que vous avez besoin de nouveaux produits. Quand on pense à la société du jetable, on peut l'aborder sous de nombreux angles, mais pensez à quelque chose d'aussi simple qu'un rasoir, si vous êtes un homme. Autrefois, on utilisait un rasoir droit. Il pouvait durer des décennies. Certains duraient même assez longtemps pour que vous puissiez le transmettre à votre fils. Juste un morceau d'acier que l'on pouvait affûter régulièrement et utiliser encore et encore. Eh bien, au fil du temps, les spécialistes du marketing ont commencé à se dire, si je travaille dans l'industrie des lames de rasoir, ce n'est pas viable. Ils ont donc créé le rasoir de sécurité, avec ce magnifique manche, solide. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, messieurs, vos pères se rasaient avec un rasoir de sécurité. Une belle pièce d'é, solide, en acier, encore une fois, robuste, lourde, quelque chose à quoi on pouvait s'accrocher, quelque chose que l'on pouvait, là encore, transmettre. La seule chose qui devenait jetable, c'était cette petite lame. On mettait la lame en place, on l'enlevait quand elle était émoussée, et on en mettait une nouvelle. Mais bon, quel profit peut-on tirer de ces minuscules morceaux d'acier? Il faut fabriquer des rasoirs à deux lames. Non, 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 il faut en faire à trois lames. Aujourd'hui, tout le monde semble se raser avec des rasoirs à cinq lames. Non seulement on jette les lames, mais dans bien des cas, on jette aussi le manche. C'est une société du jetable conçue pour le consommateur. L'obsolescence programmée. Les objets sont conçus pour se détériorer, pour se casser. Même au sein de l'armée, le plus grand exemple qui soit. Ils fabriquent des armes hautement sophistiquées. Ça marche. Mais réfléchissez-y. Ils créent des produits qui explosent littéralement, donc il faut en fabriquer de nouveaux. Le mot d'ordre, c'est le consumérisme. De plus en plus, des objets qui se cassent, des objets qui doivent être remplacés. Eh bien, Dieu est différent. Dieu, qui est là depuis l'éternité, qui habite l'éternité, est différent. Il s'intéresse aux choses qui durent, aux choses qui perdurent, qui restent, qui résistent, qui sont permanentes dans un certain sens. Parfois, des résultats rapides sont nécessaires. Pensez à notre mur au sud, très efficace. Nous avons considérablement réduit l'immigration illégale en particulier. Il s'agit essentiellement d'un mur métallique fragile qui rouillera avec le temps, pas très esthétique, mais qui remplit son rôle dans l'immédiat. Il empêche les gens d'entrer, mais c'est une structure relativement temporaire. Comparez cela, par exemple, à la Grande Muraille de Chine, plus de 10 000, je crois, 13 000 km de maçonnerie en briques et en pierre, conçue pour empêcher les envahisseurs du Nord d'entrer en Chine. Elle est toujours debout aujourd'hui, des siècles plus tard. Si vous vous penchez sur la Grande Muraille de Chine, c'est fascinant. Voici l'aperçu fourni par l'IA de Google. La Grande Muraille de Chine est un système de défense gigantesque, construit sur plusieurs générations et s'étendant sur plus de 2000 ans. Elle dure. Elle a duré. Elle est toujours là aujourd'hui. Elle remplit toujours sa fonction aujourd'hui. Elle s'étend sur environ 8850 km à travers le nord de la Chine. Construite principalement sous la dynastie Ming, elle comprend des forteresses, des tours de guet et des barrières, dont environ 70% sont des murs construits et le reste utilise le relief naturel. On parle ici de 8850 km, mais il existe en réalité des murs qui s'étendent parallèlement les uns aux autres pour repousser les vagues d'envahisseurs. Il s'agit d'une série de murs construits par différentes dynasties, comprenant souvent des murs parallèles. Elle a été principalement conçue comme un système de défense militaire composé de briques, de pierres et de terre battue, comportant, dans certaines sections, des tours, des forteresses et des balises. Elle a résisté à l'épreuve du temps. Pour mettre les choses en perspective, Elle est plus ancienne que notre pays. Nous sommes sur le point de célébrer le 250e anniversaire de l'Amérique. Ce mur était là depuis, quoi? Il a été construit 8 fois plus longtemps que nous existons. Étonnant. Eh bien, Dieu construit quelque chose qui dure, mes frères. Il est le constructeur ultime. Ouvrez votre Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Nous avons des promesses certaines. Nous savons que nous pouvons compter sur ces promesses. Et Dieu, en tant que notre Père, se réjouit lorsque nous sommes disposés à compter sur elle, car cela signifie que nous lui faisons confiance. Nous le cherchons avec diligence et avons confiance qu'il nous récompensera. C'est par la foi que Noé, averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi de crainte et prépara une arche pour sauver sa famille. C'est par cela qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui vient de la foi. Il a construit quelque chose. Cela lui a pris beaucoup de temps. Cela avait un grand but. Mais ce n'est pas de cette construction dont nous parlons ici dans ce passage. C'est par la foi qu'Abraham, verset 8, lorsqu'il fut appelé à partir vers un lieu où il devait plus tard recevoir un héritage, obéit. Et il partit, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna dans le pays de la promesse. Dieu lui a dit de quitter sa patrie, et il a obéi, il a écouté, et il a eu confiance que Dieu le récompenserait pour cela. Nous voyons une partie de cette promesse ici, dans ce verset. Il a séjourné dans le pays de la promesse, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Ils sont héritiers de la même promesse, tout comme vous et moi sommes héritiers de la même promesse. C'est une promesse universelle pour les saints. Car ils cherchaient une cité qui a des fondements, dont Dieu est le bâtisseur et le créateur. Abraham était prêt à quitter son mode de vie aisé dans une ville qui semblait très permanente. C'était un homme riche. Son père était un homme riche. Il aurait bien réussi s'il était resté là où il était, mais il savait qu'il y avait quelque chose au-delà de cette ville physique dont il aurait pu profiter, dans laquelle il aurait pu s'élever. Il cherchait une ville qui a des fondations, de vraies fondations, des fondations éternelles, dont Dieu est le bâtisseur et le créateur. Dieu est en train de construire, frère, un lieu permanent. On pourrait dire que cette ville en est le centre, mais il construit un royaume permanent, le royaume dans lequel vous et moi cherchons à entrer, le royaume dans lequel Abraham, Isaac et Jacob cherchaient à entrer, la ville dans laquelle tous ces saints de ce chapitre sur la foi cherchaient à entrer. Il voulait quelque chose de permanent parce que Dieu est dans le permanent. Il est dans l'éternel. C'est ce qu'il veut nous donner, la vie éternelle à ses côtés. Il veut que nous ayons ce qu'il a. Et l'entrée dans ce sujet, pour nos besoins, c'est cette ville qui a des fondations que Dieu lui-même a construites. Mais il construit quelque chose d'encore plus important qu'une ville, bien sûr. Nous le comprenons. Et c'est pourquoi il a mis des ouvriers en place. Voici Paul. Nous ne répondrons pas encore à la question. Qu'est-ce qui préoccupait le plus Paul? 1 Corinthiens 3. Ce qu'il voulait avant tout que les frères aient à l'esprit, ce qu'il demandait constamment à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 1. Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des bébés en Christ. Je vous ai nourri de lait, et non de viande. Car jusqu'à présent vous n'étiez pas capable de la supporter, et vous ne l'êtes pas encore. Car vous êtes encore charnels, Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des querelles et des divisions, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas comme des hommes? Une fois que nous sommes convertis, une fois que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, nous ne faisons pas automatiquement partie de la famille de Dieu. Nous avons tous des choses à régler, chacun d'entre nous. Les Corinthiens, ici, avaient beaucoup de problèmes spirituels à gérer. Ils étaient encore charnels. J'ai entendu dire que, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, on est à 0,1% Dieu, et que l'objectif est de grandir dans le Saint-Esprit pour finir par en être entièrement composé, mais ils étaient encore charnels, disait Paul. Alors que l'un dit, je suis de Paul, et un autre, je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas encore charnel? N'êtes-vous pas charnel? Concentrez sur les hommes plutôt que sur le Dieu qui œuvre à travers ces hommes pour un but suprême. Qui donc est Paul, et qui est Apollo, sinon des serviteurs par lesquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun? J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ainsi, elle, ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Je ne suis pas du genre à m'occuper des plantes. Les Hook m'ont offert une plante quand j'étais célibataire, et Madame Hook m'a dit qu'il fallait l'arroser, je crois, une fois par mois, et qu'elle vivrait éternellement, mais elle est morte au bout de 6 mois. J'ai presque honte de le dire. Et elle a vécu 6 mois sans être arrosée une fois par mois, voire 2 fois par mois. Quand on est daltonien, le vert et le brun se ressemblent. Elle me semblait aussi belle que le jour où je l'ai reçue, jusqu'à ce qu'elle commence à dépérir. Mais maintenant, je suis marié à une passionnée de plantes et j'en suis venu à les apprécier. Je n'en veux plus, croyez-moi, mais j'en suis venu à les apprécier dans le sens où ma femme s'occupe d'arroser ses plantes. Ce n'est pas lui qui arrose, ou, comme l'a dit Paul, ce n'est ni lui ni elle qui arrose. Et elle pousse tout simplement. Et c'est vraiment incroyable. C'est Dieu qui donne la croissance. L'homme ne peut rien faire pour générer la vie. Nous pouvons prendre soin des choses, et ensuite Dieu, par la façon dont il a structuré l'univers, fait pousser les choses. Eh bien, il en va de même sur le plan spirituel. Les ministres peuvent enseigner des choses aux frères. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Vous pouvez lire certaines choses dans votre Bible. Vous pouvez lire certaines choses dans le magazine The Pillar ou dans le magazine The Real Proofs, et vous pouvez agir en conséquence, mais en fin de compte, c'est Dieu qui donne la croissance. Il accomplit quelque chose en chacun de nous, et c'est miraculeux. C'est pourquoi Paul dit, « Ne vous concentrez pas sur l'homme, concentrez-vous sur Dieu qui donne la croissance. Car nous sommes ses collaborateurs. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, c'est-à-dire son architecture ou sa structure. Donc oui, Dieu construit une ville dont les fondations sont posées par Dieu, mais plus important que cette ville sont ses habitants, ceux qui la composent, les gens, vous et moi. Ceux qui veulent être éternels dans cette ville éternelle. Et en fin de compte, nous voulons que tout le monde soit éternel, que tout le monde soit permanent. C'est le but ultime de Dieu. Il souhaite que tous les hommes soient sauvés. Et il nous utilise à cette fin. Mais Dieu est un architecte. Il est un bâtisseur et il est un architecte. C'est très clair. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage maître d'œuvre. Ainsi, Dieu, en tant que bâtisseur, a employé d'autres bâtisseurs pour l'aider dans son grand projet, pour l'aider dans son plus grand projet. J'ai posé le fondement, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Savoir Jésus-Christ, le fondement est crucial. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Dieu veut des alliés dans ce processus. Nous construisons dans nos propres vies. Il veut que nous construisions avec de bons matériaux. Nous développerons cela sous peu. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera l'œuvre de chacun, pour voir de quelle nature elle est. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira une perte. Mais lui-même sera sauvé, toutefois comme au travers du feu. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu, demanda Paul, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, vous recherchez une cité éternelle là-bas, mais pour l'instant, vous êtes le temple de Dieu. En ce moment même, dit-il, Dieu habite en nous. L'ange est déjà de taille. Non, nous ne sommes pas encore dans cette cité éternelle, mais Dieu vit en nous dès maintenant. C'est incroyable. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Concentrez-vous sur les principes de Dieu, dit Paul, et non sur les principes du monde. Si quelqu'un quitte l'église de Dieu et l'attaque, tente de la détruire, ou si quelqu'un commet le péché impardonnable, c'est qu'il ne se soucie tout simplement plus du temple de Dieu, ce qui est très grave, dit Paul. Dieu est donc un bâtisseur. Il est, bien sûr, un ingénieur. Il sait comment assembler le corps. Nous en avons appris davantage à ce sujet que jamais auparavant dans ce récent sermon sur le gouvernement. Mais il est aussi, comme le dit ce verset, un architecte. Les architectes planifient à l'avance. Je me souviens que, quand j'étais enfant, nous devions parfois aller voir M. Childry, c'était son nom. C'était l'architecte de mon père. Si nous travaillions sur un projet d'envergure, il fallait aller voir l'architecte, qui devait dessiner les plans, puis faire approuver ses plans. Cela nécessite intrinsèquement de la planification. L'architecture est l'étape qui précède la construction. Les architectes ne laissent pas les choses se faire au hasard dans le déroulement de la construction d'un édifice. Il serait donc légitime de se demander, depuis combien de temps Dieu travaille-t-il sur ce projet? Ce projet, cet édifice qui vous concerne, qui me concerne, et qui concerne tous ceux avec qui Dieu a travaillé, depuis combien de temps travaille-t-il sur ce projet? Ouvrez votre Bible à Matthieu 25. Approfondissons cette ville éternelle qu'Abraham recherchait. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, et qu'il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront mises en présence de lui. Et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Ainsi, ce royaume que Dieu a préparé pour nous est en gestation depuis longtemps. Depuis la fondation du monde, car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Il recherche dans ce royaume des personnes qui prendront soin les unes des autres, qui se soucieront des autres, qui s'efforceront d'édifier la maison, de la construire, d'édifier les autres citoyens, qui veulent aider les autres citoyens, servir les autres citoyens. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront en disant, « Seigneur, quand avons-nous vu faire ces choses ?» Verset 40 « Et tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils lui diront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu dans ces conditions ?» Verset 45 « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes, à la vie éternelle des... Dans ce royaume que Dieu a préparé pour eux, dans ce lieu éternel que Dieu a préparé pour eux, dans leur place dans cette ville dont les fondations sont construites par un être éternel. » Premier épître de Pierre, chapitre 1. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Ainsi, cet endroit où nous allons est en préparation depuis longtemps. Allons un peu plus loin. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Cet endroit est en préparation depuis longtemps. Mais Dieu savait qu'en travaillant avec la chair, en travaillant avec des gens qui n'étaient pas encore permanents, il devait trouver un moyen de nous rendre parfaits, de nous rendre permanents. Et étant de chair et de sang, étant comme ces Corinthiens, charnels, nous n'allions pas être parfaits dès le sein maternel. Il devait avoir un plan. Rappelez-vous, c'est un projet de longue haleine, avec de nombreux éléments en mouvement, de nombreux facteurs en jeu dont Dieu devait tenir compte. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous commençons à voir ce que Dieu a ajouté à son plan pour que nous puissions passer du charnel au spirituel. Vers un héritage incorruptible, sans souillure et qui ne se flétrit pas, réservé dans les cieux pour vous. Un avenir formidable que Dieu nous a offert. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est pourquoi vous vous réjouissez grandement, bien que, pour un temps, si cela doit être, vous soyez affligés par diverses épreuves. La vie peut être difficile, mais nous gardons les yeux fixés sur le prix. Nous gardons les yeux fixés sur cet héritage, sur cet appel. Et je me trahis un peu ici, mais on pourrait penser que Pierre voudrait la même chose pour les frères, pour nous, que ce que Paul voulait. Nous y reviendrons. Ce qui vous remplit d'une grande joie. Bien que maintenant, au verset 7, l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, même s'il est éprouvé par le feu, afin qu'elle soit trouvée digne de louange, d'honneur et de gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu. Et en qui, bien que vous ne le voyiez pas maintenant, vous croyez, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Le rôle du Christ est central dans ce plan à long terme qui est en cours. Cela ne serait pas possible sans lui. Cela ne serait pas possible sans que lui et le Père aient décidé d'envoyer cet être sans péché ici-bas pour mourir à notre place. C'est encore frais dans nos esprits. Nous venons tout juste de sortir de la saison de la Pâque. Verset 8. Que vous aimez sans l'avoir vu. En qui, bien que vous ne le voyiez pas maintenant, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie indicible et glorieuse, en recevant le but de votre foi, le salut de vos âmes. Ce salut, les prophètes l'ont recherché et sondé avec soin, ceux qui ont prophétisé la grâce qui devait vous être accordée, cherchant à savoir ce que signifiait, ou à quel temps, l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ est le même Esprit qui est en Dieu, le Saint-Esprit, bien sûr. Il n'y a pas deux esprits. Lorsqu'il annonçait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient les choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec le Saint-Esprit envoyé du ciel. Chose que les anges désirent contempler. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et espérez jusqu'à la fin la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Les proverbes disent que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Pierre dit, regardez vers l'avenir. Méditez sur cette espérance. Méditez sur cette cité éternelle. Méditez sur le rôle que vous y jouez. Que ce soit une réalité des, mais pensez aussi à cet élément spécifique qui est directement lié, le sacrifice du Christ, qu'il relie explicitement à ce plan à long terme, comme nous le verrons dans un instant. Comme des enfants obéissants, verset 14, ne vous conformant pas aux convoitises que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint vous aussi dans toute votre conduite. Car il est écrit, soyez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez le Père, qui juge sans partialité selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Ce royaume a été prévu pour nous depuis la fondation du monde, mais ici, il est dit que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais il s'est manifesté en ces derniers temps pour vous. Dieu voulait donc que vous et moi fassions partie de sa famille avant même la fondation du monde. Il a dit, c'est une chose de construire une ville éternelle, merveilleuse, une ville permanente qui sera là, mais si nous n'avons pas de gens pour peupler cette ville, à quoi sert-elle? En d'autres termes, les habitants de la ville sont plus importants que la ville elle-même. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait conçu un plan pour préparer d'autres êtres à habiter cette ville avant la fondation du monde. Incroyable! Vous qui, par lui, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Puisque vous avez purifié vos âmes et que vous obéissez à la vérité par l'Esprit pour un amour sincère des frères, aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur et avec ferveur, étant-les de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Ainsi, Dieu a mis en place ce sacrifice avant même d'avoir créé le monde, car il avait déjà pensé à vous et moi avant de créer le monde, nous considérant plus important que le royaume lui-même. Je devrais dire qu'il y a certains éléments du royaume qui sont plus importants que d'autres. Un royaume se compose, nous le comprenons, de quatre éléments, le territoire, important. Les lois, importantes. Mais si personne n'est là pour suivre la loi ou l'appliquer, cela devient en quelque sorte inutile. Et puis aussi les dirigeants et les sujets, les personnes que Dieu veut ajouter à sa famille, celles qu'il veut dans sa famille pour l'éternité. Je pense que c'est juste, je ne prends pas de risque, si je peux revenir à mon histoire de tout à l'heure, en affirmant que les dirigeants et les sujets sont les composantes les plus importantes du royaume. Je pense qu'il est juste de le dire. Jean 17. Jean 17. Ce royaume a donc été planifié il y a longtemps. Avant même cela, le sacrifice nécessaire pour nous faire entrer dans le royaume avait été prévu. Examinons de plus près ce sacrifice. Jean 17, verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Christ a transmis le message que le Père lui avait confié pour qu'il nous le donne. Et ils les ont reçus, et ils ont su avec certitude que je venais de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Christ a apporté un témoignage crédible, non seulement par la vérité qu'il a prononcée, mais aussi parce qu'elle était étayée par de puissants miracles. Personne n'avait d'excuse pour rejeter Christ. C'était évident. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Il est sur le point de partir. Et je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Tant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes sous le nom du Père. Ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés, et aucun d'entre eux n'est perdu, sauf le Fils de la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Et maintenant, je viens vers toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Je ne prie pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Nous sommes dans le monde. Nous vivons, nous travaillons et nous avons des voisins qui sont dans le monde, et beaucoup d'entre eux ont un avenir radieux. Mais pour l'instant, nous sommes très différents en ce sens que nous menons une vie différente de la leur. Ils ne voient rien d'autre que notre conduite qui nous distingue. Nous n'avons pas les cheveux verts ni les yeux plus grands. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous pouvons parfois en avoir l'air, mais nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes dans le monde. Nous avons simplement une mission différente. Nous sommes tournés vers une cité invisible. Essayez de dire cela à votre voisin. Ce serait jeter une perle devant. Je veux prendre soin de ma maison, mais je ne me soucie pas vraiment de déménager dans une maison plus grande ou quoi que ce soit d'autre. Un jour, je vais en fait emménager dans une cité invisible. Des perles devant des cochons. On te le fera savoir. Peut-être pas en face, mais dans ton dos. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, pour ces 11-là et les autres qui écoutaient et qui allaient se convertir, y compris les saints de l'Ancien Testament qui se trouvaient dans les environs. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Il y a une œuvre qui se poursuit depuis ce temps-là, depuis que le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte en l'an 31 après Jésus-Christ et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Au fil des siècles, des millénaires maintenant, Dieu a ajouté d'autres personnes à l'Église. Christ ne priait pas seulement pour ceux du premier siècle, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Vous et moi, frères, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé, et que je les ai aimés et que tu m'as aimé. Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi là où je suis. Afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voici à nouveau cette phrase. Le Père aime Christ depuis toujours. En fait, nous savons que c'est pour l'éternité. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'ait pas aimé Christ. Tu m'as aimé avant la fondation du monde, a dit Christ. Eh bien, nous savons que Christ a été mis à mort avant la fondation du monde. On peut supposer, vous savez, qu'après ce moment de création, non pas qu'il y ait un moment de création. Ces choses ne peuvent être comprises que dans une certaine mesure avec notre compréhension limitée de la physique, du temps et de l'espace. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement comment les choses ont toujours été là. Mais Christ a été mis à mort avant la fondation du monde et il a été aimé avant la fondation du monde. Le terme « fondation » signifie simplement la fondation, la conception, mais il signifie aussi la déposition. Vous savez, pensez à une déposition, les avocats vous demandent des informations, vous exposez fait après fait, et vous finissez par constituer un ensemble de preuves. Eh bien, ce terme est généralement utilisé dans un sens juridique, mais il est aussi utilisé dans un sens géologique. Pensez à l'érosion, où l'eau ou le vent usent la matière. Le contraire de l'érosion, géologiquement parlant, c'est le dépôt. L'ajout de matière pour construire quelque chose. Donc, tu m'as aimé avant même l'accumulation des matériaux qui ont construit ce monde, c'est une autre façon de le dire. Ô Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Voilà le rôle du Christ depuis avant la fondation du monde. C'est le plan qui consistait à nous donner cette cité depuis avant la fondation du monde. Nous savons que nous recevrons le royaume. C'est clair d'après Matthieu 25. Mais répondons à cette question. C'est maintenant le moment de répondre. Qu'avait Paul à l'esprit? Vous en avez probablement déjà une assez bonne idée à ce stade. Vous en avez probablement une assez bonne compréhension. Mais commençons par un concept. Combien d'entre vous ont entendu parler ou lu des informations concernant le grand transfert de richesses qui est actuellement en cours? D'accord. Je vois quelques mains levées. En fait, une grande partie de l'auditoire a levé la main. Le grand transfert de richesses est bien réel. Il s'agit de familles qui ont accumulé une fortune au fil du temps et qui possèdent tellement d'argent que les intérêts et les investissements seuls s'accumulent à un rythme vertigineux. Et les riches, désolé d'utiliser ce cliché, mais les riches s'enrichissent, tandis que les pauvres s'appauvrissent. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse énormément. Et comme le dit cet article, oui, le grand transfert de richesses est bien réel. Il s'agit d'un changement économique en cours où des milliers de milliards de dollars d'actifs passent de la génération des baby boomers aux générations plus jeunes. Selon les estimations, entre 84 000 et 124 000 milliards de dollars seront transférés aux États-Unis entre 2045 et 2048, bien que cette richesse devrait se concentrer parmi les ménages déjà aisés, ce qui pourrait aggraver les inégalités. Ce transfert n'est pas une aubaine pour tous. Une grande partie de la richesse est concentrée, ce qui signifie qu'un petit pourcentage d'héritiers recevra la majorité des actifs. D'une certaine manière, on pourrait dire, bon, c'est inéquitable. C'est injuste. Et nous savons que Dieu ne veut pas que nous nous concentrions sur les richesses de ce monde. Nous ne cherchons pas à accumuler une immense richesse matérielle. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a dit Christ. Mais ce concept selon lequel un petit pourcentage d'héritiers reçoit la majorité des actifs devrait nous fasciner, vous et moi. Les familles de la classe ouvrière pourraient hériter de peu en raison de la hausse des coûts des soins de santé et des soins de longue durée, qui réduisent le patrimoine de leurs parents. Il y a des gens qui, pour le meilleur ou pour le pire, profitent essentiellement de la richesse accumulée par leurs ancêtres. Éphésiens, chapitre 1. Répondons à la question que nous avons posée au début. Qu'est-ce qui préoccupait le plus Paul ? Que voulait-il avant tout que nous comprenions ? Éphésiens, chapitre 1. Quelle est la seule chose qu'il voulait ancrer dans l'esprit des frères ? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, voilà qui revient. Choisis avant la fondation du monde, mais nous a choisis en lui avant la fondation du monde, sans surprise, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Nous ayant prédestinés à l'adoption filiale par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Il a construit ce lieu pour nous, a sacrifié cet être qu'il a aimé pour toujours pour nous, a conçu ce plan pour nous, nous a déjà placés dans son édifice, bien que nous soyons encore principalement charnels. Mais tout cela pour nous. Il nous a prédestinés à l'adoption filiale, à la filiation, par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Il a voulu faire cela. Il ne nous a pas ajoutés à son plan à contre-cœur. Il a voulu cela depuis longtemps, plus longtemps que nous ne pouvons le comprendre en tant qu'êtres humains. Il nous connaît, vous et moi, depuis plus longtemps que nous existons, bien plus longtemps que nous existons. Sa capacité à penser et à planifier n'est pas seulement celle du bâtisseur, mais celle de l'architecte de notre salut, ce qui est presque incompréhensible. À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Par laquelle il a abondé envers nous en toute sagesse et prudence. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir qu'il s'était proposé en lui-même, afin que, lorsque les temps seraient accomplis, il rassemble en un seul tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en Christ. En lui aussi nous avons reçu un héritage. Nous avons un héritage, frères. Nous sommes comme ceux qui sont les bénéficiaires du grand transfert de richesse, sauf que la richesse que nous allons recevoir dépasse de loin tout ce qu'ils pourraient espérer ou imaginer recevoir. Nous avons reçu un héritage, ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Dieu décide simplement de faire quelque chose, y réfléchit, et le fait. C'est le conseil de sa propre volonté. Oui, il peut recevoir des retours d'autres personnes. Je suis sûr que lui et Christ ont discuté de ce qu'il faisait. Oui, nous voyons, par exemple, Dieu prendre conseil auprès des 24 anciens ou de Moïse. Cela ne veut pas dire qu'il est imperméable au conseil, mais il agit selon le conseil de sa propre volonté. afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons d'abord mis notre confiance en Christ. En qui vous aussi vous avez mis votre confiance, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de promesse, qui est le gage de notre héritage. C'est un tout petit à-compte, un tout petit avant-goût de ce que nous allons recevoir, jusqu'à la rédemption de l'héritage acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, voici ce qu'en dit Paul, c'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de l'amour que vous portez à tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Paul prie constamment Dieu dans un esprit d'action de grâce pour les frères. Pourquoi ? Je fais mention de vous dans mes prières. De quoi parlait-il ? Simplement, oh, Bob est vraiment un type formidable, Dieu. Je suis content de voir Bob chaque sabbat. Non. C'est merveilleux. Je suis sûr que s'il y avait un Bob à Corinthe ou là où Paul voyageait, ce serait merveilleux. Mais non. De quoi parlait-il constamment dans ses prières à Dieu? Pourquoi ne cessait-il de rendre grâce? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Nous avons beaucoup entendu parler de sagesse et de connaissance la semaine dernière. Eh bien, c'est en quelque sorte la sagesse et la connaissance les plus importantes. Afin que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, les yeux de votre cœur étant éclairés, afin que vous sachiez, voilà ce sur quoi Paul était extrêmement concentré. C'est ce dont il parlait constamment à Dieu. C'est pourquoi il parlait sans cesse de la récompense des frères, de notre récompense. C'est pourquoi Pierre parlait sans cesse de notre récompense, tout comme Christ et d'autres serviteurs de Dieu. Les yeux de votre cœur étant éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de cette vocation, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance, l'ampleur de sa puissance, à notre égard pour nous faire croire selon l'efficacité de sa puissance. Paul demandait constamment à Dieu, élargis l'esprit des frères. Aide-les à comprendre ce que tu leur donnes. Aide-les à apprécier cet appel qui ne ressemble à rien d'autre, que très peu comprennent, qui n'est offert qu'à très peu. Aide-les à comprendre, à saisir cela, telle était sa prière constante à Dieu. Qu'il a manifesté en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir, et a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul voulait, frères, que nos esprits s'élargissent, car il comprenait que c'est la seule façon de rester motivé. Concentrez-vous sur le but. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ainsi que Christ l'a dit. Restez concentrés sur cette récompense éternelle qui vous attend. Restez concentrés, disait-il, sur le caractère que vous et moi devons développer pour atteindre ce royaume éternel. Nous ne devons jamais perdre de vue l'incroyable appel qui nous a été donné. Nous devons nous y concentrer sans cesse, tout comme Paul l'a fait, tout comme Paul priait sans cesse Dieu à ce sujet. Répondons en quelque sorte à la prière de Paul. Veillons à rester constamment concentrés là-dessus. Nous en mesurons pleinement la valeur. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Je comprends que cela ne puisse pas être notre seule préoccupation, mais cela devrait occuper une place centrale. Cela devrait être au cœur de nos pensées. Nous avons un avenir formidable, mes frères, mais nous avons aussi un présent formidable. L'avenir est incroyable, mais souvenez-vous que nous sommes les fils de Dieu dès maintenant. En ce moment même, nous vivons dans un état extraordinaire. Pensez aux matériaux de construction. Nous avons parlé tout à l'heure du mur au sud, fait d'acier. L'acier est très solide, mais avec le temps, il rouille. Il se corrode. C'est un bon matériau de construction, mais ce n'est pas le meilleur. Si vous vivez dans le monde occidental, la plupart de nos maisons sont construites en bois. C'est un excellent matériau. Dieu nous l'a donné. Le temple était orné de bois de cèdre en particulier, ainsi que d'autres essences. Le tabernacle utilisait beaucoup de bois d'acacia. Il existe de nombreuses belles essences de bois, mais le bois n'est pas le meilleur matériau de construction. Il pourrira avec le temps s'il n'est pas entretenu. Si un incendie se déclare, peu importe le type de revêtement que vous y appliquez, il se transformera en charbon et en poussière. C'est un bon matériau, facile à travailler, léger, mais pas le meilleur. Le béton, très solide. Si vous allez dans d'autres régions du monde, vous verrez que de nombreux bâtiments, y compris des immeubles résidentiels et des maisons, sont construits en béton. Regardez les décombres à l'étranger. C'est très triste, mais dans ces conflits, on ne voit que des nuages de poussière de béton. La plupart des maisons au Moyen-Orient sont construites en béton. Elles peuvent rester en bon état pendant 50, 60, 70 ans peut-être, il faut les rénover, mais une allée en béton, 20, 30 ans, peu importe. Mais beaucoup de problèmes peuvent survenir avec le béton. Il se fissure avec le temps. Ce n'est pas le meilleur matériau. Le meilleur matériau est de loin, demandez à n'importe quel constructeur, à n'importe quel maçon, à n'importe quel ingénieur ou architecte, et ils vous diront, la pierre. La pierre naturelle est le matériau de construction par excellence. Le feu ne détruit pas la pierre. L'eau ne détruit pas la pierre. Peut-être le mortier entre les pierres, mais cela peut être réparé de manière. Les éléments ne détruisent pas la pierre. Il existe des bâtiments en pierre qui existent depuis des milliers d'années et qui sont toujours là. Pour en revenir à M. Sarako, je lui parlais le jour du sabbat et il m'a expliqué quelque chose que j'ignorais. Apparemment, il y avait en Égypte des pyramides qui avaient été construites à l'origine en briques. Aujourd'hui, on peut encore voir les contours de ces constructions, mais elles se sont effritées au cours des milliers d'années qui ont suivi leur construction. Ce n'est pas le cas des pyramides que nous connaissons bien, qui sont toutes faites de pierres taillées. Si on les blanchissait à la chaux, elles brilleraient probablement comme elles brillaient il y a des milliers d'années, lorsqu'elles ont été construites. Elles sont toujours là parce qu'elles sont faites du meilleur matériau de construction qui soit, la pierre. Ouvrez votre Bible à une pierre 1, verset 24. Oui, nous avons un avenir formidable, mais nous avons aussi un présent formidable. Une pierre 1, verset 24. Pierre développe ce concept du temporaire par opposition au permanent. Car toute chair est comme l'herbe, et la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été prêchée. C'est pourquoi. Chapitre 2, rejetant toute malice, toute ruse, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez-le les purs de la parole, afin que par lui vous grandissiez. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, en venant à lui comme à une pierre vivante, rejetée certes par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse. Christ était une pierre dans cette vie, rejeté par les hommes, non pas une brique, ni un bloc de béton, ni une poutre de bois, mais une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse. Vous aussi, dit Pierre aux frères, nous dit-il, en tant que pierre vivante, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres maintenant. Dieu aurait pu choisir n'importe quel matériau pour nous comparer, mais il dit, vous êtes des pierres dans mon édifice. Je veux que vous soyez durables, alors je choisis le matériau de construction le plus durable auquel je puisse penser, que j'ai créé pour vous représenter, pour nous représenter. La pierre est le matériau de construction par excellence. C'est de cela que nous sommes faits maintenant, par analogie bien sûr, des pierres vivantes. Quand Dieu regarde vers le bas, mon fils, c'est une pierre. C'est un rocher. Ma fille, elle est forte. Elle est de pierre. Elle est un rocher. Pas une planche de bois que le feu ravage ou que la moisissure peut attaquer. Non, il nous considère comme de la pierre. Nous venons d'entendre parler, d'en apprendre davantage sur le moment où les fondations ont été posées, un moment central de l'époque où nous vivons en termes de prophétie, mais l'histoire derrière cette pierre, la pose de ces fondations de pierre, la pose des fondations du temple de Salomon, se trouve dans 1 roi chapitre 5. 1 roi 5. Tournons-nous à ce passage. Dieu ne voulait que le meilleur pour la construction de son temple, qui nous représente en fin de compte. Nous sommes désormais l'édifice de Dieu, mais si vous regardez dans 1 roi 5, au verset 13, après que Salomon eut eu ses conversations avec Hiram, qui était l'ami du roi David, si je me souviens bien, le roi du Liban, Salomon savait qu'il y avait au Liban les matériaux dont il avait besoin pour construire ce temple, et qu'il y avait au Liban les ouvriers dont il avait besoin pour construire ce temple. Nous reprenons l'histoire ici au verset 13. 1 roi 5 verset 13. Salomon fit passer par le Liban une troupe de 30 000 hommes, qu'il envoyait par groupe de 10 000 par mois. Ils passaient un mois au Liban et 2 mois chez eux, et Adoniram était à la tête de cette troupe. Salomon avait, il s'agit des ouvriers de Salomon pour construire le temple. Salomon avait 70 000 porteurs, 70 000 personnes chargées de transporter les matériaux du Liban vers Israël, et 80 000 tailleurs dans les montagnes, des gens qui coupaient le bois et taillaient la pierre. Outre les chefs des officiers de Salomon, il y avait 3 300 chefs de chantier, qui dirigeaient le peuple chargé des travaux. Donc les surveillants. Imaginez tout ce monde coupant du bois et taillant de la pierre pour le temple, à la recherche du meilleur. Et le roi donna l'ordre, et l'on apporta de grandes pierres, des pierres précieuses et des pierres énormes pour poser les fondations de la maison. Et les constructeurs de Salomon et les constructeurs d'Hiram les taillèrent. Ainsi, non seulement cette équipe de 150 000 hommes que Salomon avait désignés, plus les 3 300 chefs de chantier, mais aussi les ouvriers du Liban lui-même. Combien de personnes cherchaient ces grandes pierres, ces pierres précieuses, ces pierres énormes pour poser les fondations de la maison? Cette quête ultime des meilleurs matériaux devrait élargir notre horizon quant à notre vocation. Et les constructeurs de Salomon et les constructeurs d'Hiram les taillèrent en blocs de pierre. Ils préparèrent donc du bois et des pierres pour construire la maison, pas du béton, pas de briques, pas de terre pour ses fondations, pas de bois pour ses fondations, mais de la pierre. J'ai inspecté certaines de ces pierres à l'étranger, et certains pensent que certains de ces monolithes que l'on voit au Liban faisaient partie des opérations de taille de pierre qui auraient abouti au transport de certains matériaux jusqu'en Israël. Mais je me suis tenu sur ce qu'on appelle, et j'en ai déjà parlé, la pierre de la femme enceinte, qui est là, à l'époque, On pensait qu'il s'agissait de la plus grande pierre taillée à la main au monde. Elle mesure environ 20 mètres de long, environ 4 à 5 mètres de large, 5 mètres à son point le plus large, et 4 mètres de haut. Imaginez un bloc de pierre taillée, de près de 21 mètres de long, 5 mètres de haut et 4 mètres de large, un véritable géant. Mais les archéologues ont depuis découvert que, juste sous la surface, à côté de cette pierre de la femme enceinte, comme on l'appelle, se trouvent deux autres pierres encore plus imposantes. Voilà de quoi ces gens étaient capables, c'est incroyable ce que l'homme peut faire, mais uniquement avec les matériaux que Dieu lui a donnés. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. Pas étonnant que Paul ait écrit cela aux Éphésiens. Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang, car il est notre paix, lui qui des deux noms a fait qu'un et qui a abattu le mur de séparation qui nous séparait, en abolissant dans sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements contenus dans les ordonnances, afin de créer en lui-même, des deux, un seul homme nouveau. Ainsi, il a fait la paix. Il n'a pas aboli la loi. Il a aboli certains éléments sacrificiels. Il était le sacrifice. Il a aboli la peine prévue par la loi si nous acceptons ce sacrifice et respectons notre part du contrat, non pas que nous ne puissions jamais mériter le salut. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié. Très bien. Verset 16. Afin de réconcilier les deux en un seul corps avec Dieu par la croix, ayant ainsi tué l'inimitié, il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons tous deux accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et de la famille de Dieu, et vous êtes édifiés sur. Nous sommes des pierres vivantes édifiées sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, sur laquelle tout l'édifice, bien assemblé, s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes aussi édifiés ensemble pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Maintenant, frères, il n'y a qu'une seule substance qui soit plus durable que la pierre. Une seule. Vous savez ce que c'est, je sais ce que c'est, 2 Corinthiens, chapitre 4. Il n'y a qu'une seule chose plus durable que la pierre, que Dieu nous appelle maintenant pierre, 2 Corinthiens 4, verset 3. Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont perdus, pour lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne croient pas. De peur que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse sur eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, le Seigneur, et nous-mêmes, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a ordonné à la lumière de briller dans les ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour nous donner la lumière de la connaissance de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor, ce gage de l'esprit dont nous avons parlé plus tôt, dans des vases d'argile, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Les vases d'argile sont sujets à la destruction. J'essayais récemment de fabriquer un grand pot de fleurs pour ma femme, et je n'avais pas réalisé que la température avait baissé. Du coup, mon ciment à prise rapide n'a pas pris correctement. Et quand j'ai retiré le moule, cela n'avait pas l'air normal. Ça aurait dû durcir bien avant que je me gratte la tête et que la moitié de la paroi de ce pot s'effrite. C'est un vase d'argile, juste de la pierre, de la poussière et du sable. Mais ces vases d'argile que nous habitons, nos corps, même s'ils vont s'effriter tout comme ce pot, même s'ils ont une durée de vie limitée, même si ce pot avait été en parfait état, il finirait par s'effriter, il finirait par périr, il finirait par retourner à la terre, tout comme nous le ferons. Mais nous avons en nous, dans ces vases d'argile, un certain trésor, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Dans la détresse, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous présentera avec vous. Car tout est pour vous, afin que la grâce abondante, par l'action de grâce de beaucoup, rejaillisse à la gloire de Dieu, raison pour laquelle nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, même si ce corps charnel se détruit, même si cette création charnelle se détruit, même si l'entropie est à l'œuvre, même si nous nous épuisons, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction, cette pression que nous subissons, qui provoque la croissance, qui met en marche le mécanisme d'apprentissage, comme l'a dit M. Pack, cette légère affliction, qui n'est que pour un instant, agit en notre faveur, elle édifie en nous un caractère, un poids de gloire bien plus grand et éternel. Christ a appris par les choses qu'il a souffertes, tout comme nous. Alors que nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas, nous voyons cette cité qu'Abraham pouvait voir. Nous voyons l'invisible, comme je crois qu'il est dit que Moïse voyait, ou peut-être était-ce Noé, je ne m'en souviens plus, ailleurs dans ce chapitre sur la foi. Nous voyons l'invisible. Nous voyons des choses qui ne se voient pas. Nous ne recherchons pas les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient, ironiquement, sont temporaires, éphémères, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Les choses qui ont été prévues depuis la fondation du monde, cet édifice qui a été prévu depuis la fondation du monde. Car nous savons que si notre demeure terrestre, cette tente, venait à être détruite, nous avons une demeure de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. C'est pourquoi nous gémissons ardemment, en désirant ardemment d'être revêtus de notre demeure qui vient du ciel. Si nous en sommes revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Non pas que nous voulions être dépouillés, mais revêtus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Cet homme intérieur, cet esprit en nous que nous espérons faire grandir au fil du temps, est la seule chose plus durable que la pierre. La seule chose plus durable que la pierre. Ouvrez votre Bible au chapitre 4 de Jean, Jean 4, verset 23. L'heure vient, et elle est déjà là, Christ expliquait à cette femme au puits, à qui il parlait de l'eau spirituelle, de l'eau vive. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que nous faisons maintenant, frères. Car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est justement dans le chapitre précédent qu'il expliquait à Nicodème que nous devons devenir esprit, car nous entrons dans la famille de Dieu. Nous allons naître de nouveau. Nous sommes engendrés maintenant, mais nous naîtrons de nouveau, composés de cet esprit même. Une question avant de conclure ici. Ouvrez votre Bible au chapitre 14 de Luc. Où en est notre édification? Avec tout ce qui a été mis en place, avec toute cette connaissance du processus d'édification que Dieu met en œuvre pour produire des fils et des filles, où en est notre édification? Nous considérons souvent le chapitre 14 de Luc dans le contexte du conseil baptismal, dans le contexte de l'engagement envers ce mode de vie, mais c'est un engagement continu. Luc 14, verset 25. Une grande foule l'accompagnait. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, n'aime pas moins. » C'est-à-dire son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Il ne peut y avoir rien que nous placions avant Dieu dans cette vie. Les deux grands commandements sont d'aimer son prochain, mais le premier est d'aimer Dieu. On ne peut rien placer avant lui, y compris sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, oui, dans sa propre vie, même notre propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied-il pas d'abord pour calculer la dépense, afin de savoir s'il a de quoi la terminer? De nombreux grands projets de construction impliquent de se rendre sans cesse à la banque pour obtenir davantage de financement. Je me souviens d'un des cas les plus marquants, je dirais, d'une issue tragique pour une entreprise commerciale à laquelle j'ai personnellement participé, dans une certaine mesure, avec mon père et son ancien associé. L'associé voulait se lancer dans la construction de maisons sur plan en Arizona, mais mon père s'y opposait en raison de la distance, l'impossibilité de gérer le projet, et je ne sais pas s'il s'inquiétait également pour le marché immobilier, mais c'était juste avant la crise immobilière de 2008, et je me souviens avoir vu ces maisons que l'associé de mon père avait construites en Arizona. Des demeures, inachevées, vandalisées, aux vitres brisées, occupées par des squatteurs au milieu du désert, de belles maisons, et cela m'a vraiment touché. Il n'a pas pu obtenir de financement supplémentaire. Le marché s'est effondré. Il avait peut-être évalué le coût au départ et s'était dit, « Tu sais, j'ai ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. » Mais la situation a tourné au vinaigre et il n'a pas pu obtenir le financement. Nous évaluons constamment le coût. La seule façon d'évaluer véritablement le coût est de continuer à aller de l'avant et de nous concentrer sur la réponse de Paul à la question que nous nous posions à son sujet. Nous devons, comme il l'a dit, ne pas cesser de méditer sur cette vocation extraordinaire. Cela nous motivera plus que toute autre chose. Cela nous permettra de persévérer comme rien d'autre. Il viendra un temps où Dieu aura envie de l'œuvre de ses mains. On dirait que ce moment est très proche. Job a dit qu'il attendait ce moment. Nous attendons tous ce moment où Dieu dira, « Vous savez quoi? Cette pierre est prête. Cette pierre est prête à être transformée en un esprit. » Ce moment approche. Il va achever son œuvre. Philippiens chapitre 1, dernier passage ici. Philippiens 1. Philippiens 1, 3. Je rends grâce à Dieu chaque fois que je me souviens de vous, toujours dans toutes mes prières pour vous tous, présentant ma requête avec joie pour votre communion dans l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé de ceci, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ et il est pleinement capable de l'accomplir grâce à cette puissance infinie dont Paul a parlé. Frères et sœurs, prions la prière de Paul et méditons sur ce que nous venons d'entendre. Prions pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin de citer à nouveau Éphésiens 1 verset 17, nous donne l'esprit de sagesse, de révélation et de connaissance de lui, les yeux de notre intelligence étant éclairés, afin que nous sachions quelle est l'espérance de cette vocation et les richesses de son appel, et les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints. Et quelle est la puissance extraordinaire de sa force à notre égard, nous qui croyons, selon l'efficacité de sa puissance.